When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
19h sur CNews, merci d'être avec nous pour Ça se dispute avec Geoffroy Lejeune ce soir. Bonsoir Geoffroy, directeur de la rédaction Valeurs Actuelles. Et Philippe Guibert, merci d'être avec nous Philippe, enseignant, consultant CNews. Le point sur l'information avec Maureen Vidal. Et ensuite, on commence avec une bombe politique. C'est une véritable bombe politique.
Une forte explosion a retenti à Istanbul, en Turquie, cet après-midi, dans une zone commerçante très fréquentée de la ville à Istiklal. Plusieurs corps ont été constatés sur le sol. Le président Erdogan a annoncé au moins 6 morts et 53 blessés et confirme qu'il s'agit d'un attentat terroriste. Des centaines de milliers de manifestants se sont réunis à Madrid pour défendre le système de santé publique dans la région de la capitale. Les organisateurs visent la politique de santé de la présidente de la région, Isabel Díaz Ayuso, une des figures du Parti populaire, qui veut développer des partenariats publics privé et restructurer le système de soins de proximité. Le gouvernement de l'Espagne a apporté son soutien aux manifestants. Pas pour ma pomme, ce sont les mots que le président Emmanuel Macron a prononcés concernant la condamnation de la France pour inaction climatique. Le président s'est dédouané en soulignant que cette condamnation date de la période 2015 à 2018. Il surligne également ses efforts et confirme avoir mis les bouchées doubles dès son élection en 2017 concernant le climat. Pourtant, en juillet dernier, le Conseil d'État a une nouvelle fois demandé à l'État d'agir davantage pour respecter ses engagements contre le réchauffement climatique.
Le fait politique de la semaine, le fait politique du week-end, c'est la question bien évidemment migratoire. Et on va commencer avec Gérard Collomb qui était, on le rappelle, l'un des premiers soutiens d'Emmanuel Macron. Il sort du silence, il lance un pavé dans la mare puisqu'il condamne l'accueil de l'océan Viking mais va plus loin. Voilà ce qu'il dit dans les colonnes du Point. En 2018, j'essaie de recontextualiser mais on a un sujet. L'Union européenne a envisagé d'externaliser les demandes de migrants dans des pays tiers en créant en fait des centres contrôlés. Il voit que c'est un échec. Ces pays refusent. Emmanuel Macron pense à ce moment-là à mettre en place ces centres contrôlés, soit à Toulon, soit à Marseille. Il est contre, tellement contre qu'il se rend compte que cette politique migratoire est dangereuse et il démissionne du ministère de l'Intérieur. Voyez le sujet de Solène Boulan et on en parle juste après.
C'est en 2018, année de sa démission, que l'ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb s'oppose à la politique migratoire d'Emmanuel Macron. À l'époque, le chef de l'État propose d'ouvrir un centre de contrôle à Toulon ou à Marseille, ces lieux où sont regroupés les migrants pour qu'ils puissent demander l'asile. Gérard Collomb refuse le projet, mais n'en parle pas publiquement.
Si j'avais dit cela à l'époque, j'aurais gravement nui à Emmanuel Macron. Si je m'étais exprimé avant la présidentielle, mon intervention aurait pu inverser le résultat de cette élection et Marine Le Pen être élue.
Gérard Collomb critique vertement l'accueil de l'Ocean Viking sur le sol français. Une décision qui encouragerait, selon lui, les réseaux de passeurs.
On avait refusé d'accueillir l'Aquarius en 2018. Emmanuel Macron avait fait alors montre de fermeté et le sujet des centres contrôlés me semblait appartenir au passé. En accueillant maintenant l'Ocean Viking, on ouvre une nouvelle brèche, créant un précédent.
L'ancien ministre de l'Intérieur préconise une politique ferme qui s'appuie sur le dispositif Frontex, l'agence qui assure la surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne.
Ce n'est pas massivement qu'il faut accueillir, mais qualitativement, pour donner une chance de vie à celles et ceux qui arrivent dans notre pays. Je défends un humanisme qui soit de générosité, mais aussi de responsabilité.
Sans fermeté de la part du gouvernement en matière d'immigration, Gérard Collomb explique craindre une prise de pouvoir des partis autoritaires en France.
Quel symbole ! Vous avez donc le premier ministre de l'Intérieur sous l'ère Emmanuel Macron qui lâche complètement le président de la République et qui annonce des choses qu'on ne connaissait pas sur la doctrine, sur le logiciel du président en matière d'immigration. Ministre de l'Intérieur, j'ai dit premier ministre. Geoffroy Lejeune.
C'est vraiment une bombe politique, en effet. C'est vraiment une interview extraordinaire, édifiante, qu'il faut absolument lire. D'ailleurs, bravo à nos confrères du Point qui ont réussi, qui ont eu l'idée d'aller lui parler maintenant et qui ont obtenu cette confession. Ce qui est renversant, il y a énormément de choses. Vraiment, tout est passionnant dans cette interview. Moi, ce qui m'a fait peut-être le plus peur, c'est de constater qu'en réalité, on a un ministre de l'Intérieur qui était en poste, pas il y a 20 ans, mais il y a 4 ans, qui a démissionné parce qu'il a constaté que ça ne marchait plus. Et qui, pour des raisons de loyauté, que d'ailleurs, j'ai du mal à le blâmer, d'avoir attendu autant de temps pour parler, pour des raisons de loyauté, a décidé de ne pas jeter ce pavé dans la mare. Et il le fait aujourd'hui parce qu'il constate que ce qui s'est passé avec le bateau, l'Ocean Viking, est un tournant, une jurisprudence qui va nous emmener vers probablement des choses gravissimes. Et il y a autre chose dans son propos, en plus de tout ce que vous venez dire et de tout ce que le sujet a dit, c'est que si on avait créé, ou quand on créera ces fameux centres sur notre territoire, notamment à Toulon, comme c'était le projet d'Emmanuel Macron, en tout cas c'est ce qu'ils viennent de faire avec l'Ocean Viking, quand on aura ces centres-là, c'est ce que dit Gérard Collomb. Il dit une fois que les gens sont arrivés chez nous, ils ne repartent plus. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il connaît de l'intérieur la faiblesse de notre système qui en fait a du mal à expulser, a du mal même à garder les gens sous contrôle, etc. Et il fait le lien avec une affaire dont tout le monde se souviendra, c'est l'affaire de l'acte terroriste à Marseille, à la gare Saint-Charles à Marseille. Deux jeunes filles qui sont assassinées par quelqu'un, notamment quelqu'un qui venait de Lyon, qui avait pris un train la veille. Lui, il était maire de Lyon, Gérard Collomb, et qui aurait dû être expulsé et qui ne l'a pas été et qui donc a assassiné ces deux jeunes filles. Il envoie un SMS au père de l'une d'entre elles au moment où il démissionne en disant « je ne voulais plus avoir à assumer vis-à-vis de gens comme vous ce genre de choses ». Ce qui est incroyable, et rappelons-le, il vient du Parti Socialiste à l'origine, c'est pas un disciple de Charles Pasqua, c'est pas un ami de Marine Le Pen, il est en train d'expliquer le continuum absolument terrifiant qu'il y a entre la volonté de certaines populations de venir chez nous, le fait que nous n'arrivons pas à gérer ce phénomène et qu'en plus de ça nous mettons en danger notre population parce que si nous continuons comme ça.
Est-ce que c'est un tournant politique en quelque sorte d'être lâché comme ça par son premier ministre de l'Intérieur, qui est normalement son plus proche collaborateur,
qui a été un de ses premiers soutiens.
Et un de ses premiers soutiens.
Et un homme de confiance, puisque quand vous êtes nommé à l'Intérieur, en général, surtout au début d'un quinquennat, vous êtes un homme de confiance. Moi, je connais bien Gérard Collomb, j'ai pas mal travaillé avec lui, où il le côtoyait notamment au Parti Socialiste. Je suis convaincu par ce que vous avez raconté à la fin sur le fait qu'il n'assumait plus d'avoir à annoncer à des parents que deux jeunes filles ont été assassinées par un type qui aurait dû être en centre de rétention ou expulsé. Je crois tout à fait à sa sincérité sur ce point. Je suis moins convaincu par cette raison donnée pour sa démission, parce qu'il y avait quand même la question des élections municipales, de son attachement à Lyon à l'époque, qui a joué un grand rôle dans sa décision et dans les échanges qu'il a eus avec Emmanuel Macron à l'époque. Je crois surtout, c'est là où j'ai un désaccord avec Gérard Collomb, je ne suis pas sûr que cette décision d'accueillir ce navire des SOS Méditerranée soit un tournant de politique migratoire. Je pense qu'il y a une part d'opportunisme. En 2018, Emmanuel Macron avait intérêt à ce moment-là à donner des signes de fermeté. Dans le contexte actuel, entre le gouvernement italien, qui à mon avis a fait aussi pris une posture parce qu'il vient d'arriver au pouvoir, qu'il a voulu marquer.
C'est une promesse tenue par Giorgia Meloni et elle tient ses promesses. Elle a une ligne politique ferme.
Oui, on en reparlera quand il y aura à d'autres occasions. On verra si sur la durée, elle tient le même discours vis-à-vis de ses partenaires européens. Moi, j'en suis pas sûr. Mais je pense pas que ça soit un tournant. Je pense qu'il y avait une opportunité politique pour Emmanuel Macron et son gouvernement entre la déclaration du député RN à l'Assemblée qui a semé quelques troubles et puis la discussion avec l'Italie. Donc je ne crois pas que ça soit une doctrine de politique migratoire.
Et on va y venir dans un instant, mais justement parce qu'on ira sur le terrain pour savoir le sort, par exemple, de ces 230 migrants. Il y a 44 mineurs isolés, on va rejoindre notre envoyé spécial dans quelques secondes. Mais vu que vous me tendez la perche, Philippe Guibert, si dans deux semaines il y a un nouveau Ocean Viking, que l'Italie refuse, que l'Espagne refuse, pourquoi la France n'accueillerait pas ce nouveau Ocean Viking?
Vous soulignez que la dernière fois, en 2018, c'était l'Espagne.
Non, mais là, oui, mais je vous dis, là, l'Italie, l'Espagne, la Grèce refusent. La France fait quoi?
La question, de toute façon, dans cette opération, on ne traite que les conséquences. Mm-hmm. Et on est bien obligé de faire face aux conséquences.
Bien sûr.
Non. Parce que tous ceux qui disent qu'on va ramener ce bateau, tel bateau en Afrique, se payent de mots parce que vous n'avez pas de moyens de ramener un bateau dans des eaux territoriales qui ne sont pas les vôtres.
Ah, mais si vous l'empêchez d'accoster, il faut bien qu'il aille quelque part. Hein.
Eh oui, mais vous ne pouvez pas l'obliger à aller en Tunisie, à aller en Libye.
Non, mais vous pouvez l'empêcher de venir.
Vous, France, ni vous, Italie, ni vous, Espagne, vous n'avez pas les moyens, même si vous sortez vos bateaux militaires, vous pouvez le raccompagner en dehors de vos eaux territoriales, mais vous ne pouvez pas l'amener. Oui, mais au bout d'un moment, si le bateau ne veut pas retourner en Libye ou en Tunisie, eh ben, y a un moment donné où les gens finissent par... crever sur le bateau en pleine Méditerranée.
Non, personne crève sur un bateau en pleine Méditerranée. Des gens se noient.
Vous êtes optimiste parce que.
Non, mais attendez, c'est très différent.
Il y en a eu quelques 30 000 depuis 4 ans.
Pas sur un bateau.
Peut-être pas 30 000 chiffrés.
Mais attendez, c'est très différent. Pas sur des bateaux, sur des embarcations de misère qui essayent de trouver des bateaux d'ONG justement ou de faire la traversée toute seule. L'Ocean Viking ne va pas couler en pleine mer, ça ne va jamais arriver.
Il y avait 20 personnes sur l'Ocean Viking qui avaient besoin de soins.
Mais ça, c'est
20 personnes. C'est autre chose. Qui avaient besoin de soins.
Mais on peut soigner. On peut soigner sans les faire accoster.
En tout cas,
l'Italie en 2018 sur l'Aquarius, ils avaient envoyé des soins sur le bateau sans les faire accoster pour autant. Ouais, justement, il y a plein de solutions à imaginer.
En tout cas, vous ne pouvez pas l'obliger à retourner. Même Manu Militari, ni l'Italie, ni la France, ni l'Espagne ne peuvent l'obliger à retourner en Libye ou en Tunisie.
Ce que vous dites,
juridiquement, c'est pas possible, sauf à rentrer dans les eaux internationales de la Libye, de la Tunisie. Mais là, vous êtes dans une situation de droit international extrêmement.
Mais attendez, le droit international, je vais vous dire un truc, mais très sincère, je m'en fiche complètement.
Écoutez-moi. Vous sur un plateau de télé.
Parce que ce que vous appelez droit international, c'est le fait qu'un migrant qui prend une embarcation pour monter sur un bateau d'une ONG a un droit imprescriptible à venir en Europe parce que juridiquement, on n'a pas le droit de s'y opposer. Je ne suis pas d'accord et les peuples européens ne sont pas d'accord avec ça. Vous avez dit, à partir du moment où le Ocean Viking veut venir en Europe, on ne peut pas juridiquement s'y opposer. Je suis désolé, on peut complètement s'y opposer.
Je dis juste que vous ne pouvez pas militairement, sinon vous violez la souveraineté d'un État. C'est un autre problème. Et donc si vous ne voulez pas accueillir ce bateau, ni l'Italie, pour reprendre la question d'Eliott, c'est ni l'Italie, ni l'Espagne, ni la Grèce, ni aucun pays méditerranéen ne veut accueillir ce bateau. Ce bateau, il peut tourner en rond jusqu'à ce qu'il trouve à Malte ou clandestinement en Sicile, parce que c'est comme ça que ça se passe la plupart du temps, finira par accoster quelque part.
On continue le débat sur les 230 migrants pris en charge par la France. Il y a désormais la question du droit d'asile, bien sûr, qui va rester, qui va devoir partir. Et comment exécuter les obligations de quitter le territoire français lorsqu'il n'y aura pas cette demande validée, surtout concernant les mineurs isolés. Il y en a 44 sur les 230.
On ne les expulse pas, vous savez.
Justement, on va poser la question à Augustin Donadieu, celui qui est sur le terrain. Vous êtes notre envoyé spécial depuis 72 heures, depuis Toulon. Comment se déroule le protocole pour les 44 mineurs isolés ?
Eh bien, c'est un protocole qui va débuter concrètement demain. Derrière moi, dans cet hôtel, ils sont 44. 44 mineurs encadrés par une quinzaine d'adultes, des psychologues, des médecins, des éducateurs. Et à partir de demain, ils devront justifier de leur âge, puisque ces migrants, ces mineurs, disent être âgés entre 12 et 17 ans. Concrètement, demain, ils vont subir une évaluation de minorité et d'isolement. Concrètement, ils devront, lors d'entretiens, raconter leur parcours, expliquer leurs conditions de vie dans leur pays d'origine, les raisons pour lesquelles ils ont quitté leur pays et expliquer également les raisons de ce choix, pourquoi l'Europe, pourquoi être venu en Europe. À la suite de cela, toutes ces informations seront transmises au procureur. Soit leur minorité sera avérée, auquel cas ils continueront leur parcours auprès de l'aide sociale à l'enfance, ou alors, si des doutes subsistent, d'autres examens seront réclamés. Et enfin, pour ceux qui seront reconnus majeurs, ils devront rejoindre les adultes dans la presqu'île de Gien pour ensuite demander l'asile.
Merci beaucoup, Augustin Donadieu, pour ces précisions. Vous m'avez dit, mais ils ne partiront pas.
Ceux dont on n'arrive pas à prouver qu'ils sont majeurs, ils partent pas. La France n'expulse pas de mineurs isolés. Ils sont placés. C'est les départements qui s'en occupent. D'ailleurs, Dominique Bussereau, je crois, qui était président de l'association des départements de France il y a quelques années, avait poussé un coup de gueule, mais monstrueux. Je rappelle qu'il vient du centre. C'est pas du tout un excité. C'est quelque chose qui n'arrive pas. Et par ailleurs, pour parler plus concrètement, un mineur isolé en France, c'est quelqu'un qui, à très court terme, va se retrouver à vendre du crack, prendre du Rivotril, voire se prostituer. C'est l'absolu. C'est l'une des choses les plus glauques qu'on laisse perdurer sur notre sol. Ils sont 44, donc ceux qui ont manifestement 55 ans, on va pas trop s'encombrer, et ils seront jugés majeurs, et donc du coup ils seront dans la procédure classique. Les autres, ils vont rester, on les expulsera pas, et on ne saura par ailleurs pas quoi en faire.
Il y a aussi des mineurs isolés qui sont pris en charge et qui évoluent dans des conditions dignes.
Oui, non, mais sauf que les départements, vraiment,
vous avez raison,
c'est quelque chose qui est un énorme problème pour
les mineurs isolés. Et puis de manière générale, il va sans doute y avoir des OQTF. Parmi les 230, tous n'obtiendront pas le droit d'asile. Comment et à quel pays dans quel pays va-t-on les renvoyer ? Là encore, sans coopération avec ces pays. Parce que là, on parle vraiment des conséquences. Parce que les causes fondamentales de tout ça. Et je crains qu'on soit qu'au début. On en a pour des années et des années. On a des pays où les régimes politiques quand ce n'est pas une guerre civile, les régimes politiques concentrent les richesses et oppressent leur population. C'est quand même assez courant. On a des pays qui sont marqués par la famine alimentaire qui a été renforcée par la guerre en Ukraine. On a le réchauffement climatique qui augmente les sécheresses, qui augmente les difficultés. Et donc les mouvements, il y a des bouquins là-dessus. Hein. Stephen Smith avait écrit un bouquin qui avait fait scandale qui s'appelait « La ruée vers l'Europe ». Sans parler de ruée, le mouvement migratoire,
il était né qu'au début.
Il y a le déséquilibre démographique qui est considérable. Il y a une démographie galopante, notamment en Afrique. Donc, sans coopération étroite avec les pays du nord de l'Afrique, mais pas seulement, on n'y arrivera pas. Et un de nos grands problèmes, quand même, mais à culpa, il faut quand même qu'on reconnaisse nos erreurs, quand même, à un moment donné. Avec le Maroc, on a une coopération. Quand ils sont en conflit avec l'Espagne, ils lâchent des clandestins. Et ça est arrivé il y a quelques mois. Et ça se finit par l'Espagne qui trouve un arrangement avec le Maroc. Avec l'Algérie, on a d'autres enjeux de négociation. Avec la Libye, je rappelle juste qu'on a détruit le régime de Kadhafi. Alors Kadhafi n'était pas quelqu'un de très sympathique. Mais le chaos politique qui en a résulté, tribal, est une catastrophe, notamment du point de vue...
Geoffroy Lejeune.
Alors moi, je n'ai rien à dire sur la Libye, je suis d'accord avec vous. Maintenant, je suis désolé, mais ça fait 15 ans que je m'intéresse à ces questions. Ouais. Et 15 ans que j'entends, on me répond tout le temps, il faudrait une meilleure coopération avec ces pays. Alors, qu'est-ce que c'est la coopération qu'on a aujourd'hui? On donne des centaines de millions d'euros à Erdogan, qui peut faire ce qu'il veut le jour où il le décide, des 4 millions de personnes qui transitent... Bah, oui, non, mais d'accord, c'est nous, c'est l'Europe. Des 4 millions de clandestins qui sont chez lui, il peut les envoyer, et c'est d'ailleurs une menace qu'il agite très régulièrement. Pareil avec la Libye, qui reçoit de l'argent pour être un port sûr vers laquelle... C'est un échec, mais je suis contre. C'est juste que
il n'y a plus d'État en Libye. Hein,
je sais bien, mais c'est juste que c'est ça qu'on appelle coopération étroite. Et ensuite, pardon, mais j'entends nos gouvernements qui tous se payent de mots, comme vous dites, pour aller se payer du courage dans un plateau de télé à Paris pour dire du mal du gouvernement italien. Et ils n'osent rien dire jamais sur l'Algérie, le Maroc, la Tunisie qui laissent passer ce genre de clandestins.
Ils retiennent aussi, mais qui laissent passer en fonction des conjonctures, des moments, la situation dans leur pays.
Non, pardon, excusez-moi, ces clandestins ne débarquent pas de nulle part. Et par contre, quand un ministre de l'Intérieur, par exemple Gérald Darmanin, est obligé d'aller s'incliner devant une stèle du FLN en Algérie parce que ça fait bien dans la coopération avec l'Algérie de montrer qu'on est capable de passer
autre chose.
Alors que son grand-père était un harki, c'est exactement la même chose. On passe notre vie
à se faire
piétiner. C'est pas du tout un autre débat, pardon. La France donne des gages d'amitié à ces pays. La France essaye de montrer du respect, etc. Et il n'y a rien en face. Donc moi, je vais vous dire...
Vous savez comment traite le Maroc et l'Algérie les Africains qui montent dans ces pays pour essayer de venir en Europe? C'est pas beau à voir, hein. Il vaut mieux pas le voir.
Vous avez dit par ailleurs qu'il y avait des problèmes de famine, etc. La France et l'Union Européenne particulièrement donnent des milliards d'aides au développement à l'Afrique. Donc je veux dire, à un moment donné...
Mais en Somalie,
on a perdu 58 soldats au Mali ces 10 dernières années. Enfin, je veux dire, moi, je veux bien qu'on fasse plus pour ce continent. Mais il y a une autre solution qui quand même pourrait être envisagée, c'est celle de l'Australie, dont on ne parle jamais. L'Australie a fait une grande campagne de publicité, de communication à destination de ces pays il y a une dizaine d'années pour dire vous ne passerez plus, c'est terminé. C'est-à-dire qu'il y a des pancartes, je vous jure, des pancartes avec des bateaux dans la mer en disant c'est terminé, c'est fini. Et ben bizarrement,
l'Australie a une situation géographique qui n'est pas exactement la nôtre.
Vous noterez qu'ils viennent par la mer, donc c'est pareil.
Mais la Méditerranée est un peu moins longue à traverser que l'océan Pacifique.
Il n'empêche que le flot s'est tari et qu'il y a moins de morts maintenant dans leur mer à eux.
Avançons autour de l'Ocean Viking. Je le disais, se pose aussi la question du rôle des ONG et des liaisons dangereuses qu'il peut y avoir entre certaines associations humanitaires qui pourraient peut-être avoir un lien avec les passeurs, du moins un contact direct ou indirect, et notamment par téléphone. Jordan Bardella appelle à faire toute la lumière là-dessus. Écoutez, c'était cet après-midi.
Il y a aussi un jeu de dupes et une complicité objective entre des ONG d'extrême gauche, comme SOS Méditerranée, qui bénéficie...
SOS Méditerranée, c'est de l'extrême gauche pour vous?
Oui, bien sûr.
Et c'est juste une association humanitaire.
Et je pense qu'on devrait d'ailleurs couper les subventions publiques à SOS Méditerranée, comme lui retirer l'agrément qui permet aujourd'hui à SOS Méditerranée d'intervenir dans les écoles. Pour une raison très simple, c'est que différents rapports, des rapports très officiels, des rapports de presse italienne, allemande, un rapport de Frontex, qui est l'agence de garde-côte européenne, a souligné à plusieurs reprises la complicité objective entre ces ONG d'extrême gauche et les mafias de passeurs.
Donc SOS Méditerranée. Votre adversaire aujourd'hui, c'est SOS Méditerranée.
SOS Méditerranée fait de la politique. Et en faisant de la politique,
ils font du sauvetage en mer.
Non, ils font de la politique. C'est un acte politique et ils participent de ce trafic d'êtres humains.
Philippe Guibert, est-ce que vous partagez cette position? C'est-à-dire, il faut faire toute la lumière sur ces ONG. Faire une enquête parlementaire européenne spéciale, très rapide, où on essaye de comprendre quel est le lien, quel est le rôle, par exemple, d'SOS Méditerranée.
D'accord, mais SOS Méditerranée, c'est relativement transparent. Je suis allé regarder cet après-midi
sur
leur financement, notamment. Il y a plusieurs médias qui ont enquêté de près. Les subventions publiques, ça représente que 11% de leur financement. L'essentiel de leurs ressources vient de dons de particuliers, de personnes ou d'entreprises. Et les subventions publiques, ce n'est pas des subventions de l'État, je précise. Ce sont des subventions de certaines collectivités locales de gauche, je vous l'accorde, qui ne représentent que 11% de leur budget.
Au-delà des subventions, donc, si on apprend en enquêtant que SOS Méditerranée puisse entrer à certains moments en contact avec les passeurs, que se passe-t-il ?
Mais je ne crois pas que ça soit démontré. Enfin, SOS Méditerranée avait fait l'objet d'une...
Ou une autre association. Hein,
avait porté plainte pour diffamation contre Stéphane Ravier, qui est le sénateur RN de Marseille, et Nadine Morano, il y a quelques années, qui les avait accusés de cette complicité. Il y a eu une enquête, il y a eu des investigations.
C'est intéressant.
Il
n'y
a pas de preuves. Alors, ce qui est clair, en revanche, c'est qu'il y a d'autres ongles qui ont pu, à certains moments, rentrer en contact avec ces passeurs. SOS Méditerranée, à ma connaissance, à vérifier, hein,
bien sûr. Mais au-delà d'SOS Méditerranée, parlons de ces associations.
Le point sur lequel Jordan Bardella dit qu'ils sont d'extrême-gauche, il n'en sait absolument rien. C'est un capitaine de navire marchand allemand qui a créé cette association. Je ne sais pas si c'est un gauchiste, peu importe. Sur SOS Méditerranée, le dossier, pour l'instant, est relativement vide. Hein, donc il y a d'autres associations qui ont été prises effectivement à avoir des contacts avec les passeurs. On peut parler de complicité objective parce que ça facilite le travail des passeurs.
Oui, d'accord.
Mais enfin, ils font un travail humanitaire.
Avant d'avoir votre réaction, Geoffroy Lejeune, les révélations, du moins les déclarations de Gérard Collomb sont en train de monter. Première réaction politique, Jordan Bardella, les aveux de Gérard Collomb sous lourd. Il confirme que nos dirigeants savent les dangers de la submersion migratoire, terrorisme, insécurité, perte d'identité, mais font délibérément le choix de la poursuivre. Pour eux, l'immigration n'est pas un problème. C'est un projet, Geoffroy Lejeune.
Je comprends pourquoi il réagit comme ça. Ce qui est choquant dans l'interview de Gérard Collomb, c'est qu'il dit à un moment donné « j'ai rien dit depuis 2018 parce que j'avais trop peur que Marine Le Pen gagne ». Et c'est vrai que, en fait...
L'argument politique est discutable.
C'est très discutable. Et en fait, à un moment donné, il faut...
Allez-y, très rapidement, mais après on reste sur les ONG. J'ai fait une petite incise.
Je vais rester sur les ONG. À la limite, on s'en fout de savoir s'ils sont d'extrême gauche ou pas, mais c'est une évidence et ça sert à rien d'en débattre. Sur les subventions publiques, moi je serais curieux de voir qui sont les particuliers qui subventionnent SOS Méditerranée, parce que c'est pas Madame Martine qui va donner 200 euros défiscalisés à la fin de l'année comme font toutes les petites gens de ce pays. Je pense que c'est des grosses fortunes, des gros milliardaires type Soros et compagnie qui financent, mais qui ne financent.
Là, vous faites un. Il faut que vous ayez des éléments pour avancer
Soros,
ça.
En fait, Soros ne finance que des ONG de ce type. Donc c'est pour ça que j'ai dit
c'est fort possible.
Donc c'est pas exactement pareil que des particuliers. Et il le fait avec un but politique, c'est ça qui est intéressant. Et ensuite, pour terminer, je lisais des éléments par-ci, par-là dans la presse, et j'avoue que l'enquête ne servirait qu'à ça. C'est que la SOS Méditerranée est accusée de participer à des groupes de discussion sur WhatsApp notamment, où ils échangent avec les passeurs les points GPS, les coordonnées des trajets des passeurs. Ce qui veut dire, si c'est avéré, ça veut dire qu'en réalité, le système auquel on a à faire face aujourd'hui, ce sont des pauvres gens qui payent des traversées à des gens qui rentabilisent leur bateau en une traversée de un migrant. C'est-à-dire que vous faites payer 5 000 euros un bateau qui est en coût. On est dans l'esclavage, le truc le plus sordide au monde. On parle d'humanitaire, mais c'est quand même ça la réalité. Donc, qui traversent, ils les jettent dans l'eau ou ils les laissent couler ou ils les laissent échouer pendant des heures jusqu'à ce que renseignés par les mêmes passeurs, des ONG.
Pour l'instant, vous n'avez aucune preuve sur SOS Militaire, de ce que vous avancez.
C'est pour ça que je dis si c'est vrai.
Pour l'instant, il n'y a aucune preuve. Sur d'autres assauts, il y a eu des éléments de mise en cause.
Je vais vous dire la preuve.
Sur celle-ci, il n'y en a pas.
Non, ça se passe toujours comme ça. C'est-à-dire que.
Non, pas toujours.
Écoutez-moi. Des gens montent dans des bateaux en payant une fortune. Ça, c'est comme ça à chaque fois. Ensuite, ils arrivent parfois sur le continent qu'ils visent, parfois pas. Parfois, ils échouent, parfois, ils tombent dans l'eau, parfois, ils se noient. OK. Bon. Parfois, ils sont sauvés par des bateaux humanitaires. Ouais. Et ben moi, ce que je dis, c'est que juste si jamais on apprend que les bateaux qui font de l'humanitaire arrivent renseignés sur les points GPS de passage, ça veut dire qu'on a affaire au nouvel esclavage et c'est la chose la plus choquante. Et tout ça.
Là, vous avancez des points qui, pour l'instant, ne sont pas du tout vérifiés.
Avançons.
Pas du tout vérifié. Et c'est par ailleurs, cet esclavage est cautionné par nos belles âmes ici à Paris.
Je rappelle quand même, je redis que Ravier et Nadine Morano ont perdu leur procès contre
SOS. La publicité.
Et que l'enquête n'a rien donné.
Mais c'est pour ça que c'est important de le rappeler, Philippe Guibert. La publicité, on revient dans un instant. Ce que je vous propose après la publicité, c'est que on revienne quand même sur ces tensions entre Paris et Rome. Oui. Et les déclarations quand même menaçantes de la ministre des Affaires étrangères et de l'Europe, Catherine Colonna, qui a mis un coup de pression à Giorgia Meloni. On verra également ces affrontements, parce que là, c'est l'Ocean Viking. Mais il y a aussi des tensions entre les forces de l'ordre et les migrants dans le nord de la France, à côté de Dunkerque. On parlera de la crise de l'hôpital. On reviendra peut-être sur Montauban, si on a le temps, avec cet établissement scolaire et cette professeure qui sont placés sous protection policière. Et un peu de politique avec Adrien Quatennin, c'est ce qui doit revenir à l'Assemblée nationale. Voilà le programme pour la deuxième partie. A tout de suite pour Ça se dispute. 19h30 sur CNews, la suite de Ça se dispute avec Geoffroy Lejeune et Philippe Guibert. Le point sur l'information, et ensuite on reviendra sur ces tensions entre Paris et Rome et Catherine Colonna, qui est la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui met un coup de pression à Giorgia Meloni. Vous verrez ça dans un instant. D'abord le point sur l'info.
Fin des recherches à Lille dans le Nord après l'effondrement de deux immeubles. Cette nuit, les secours ont retrouvé le corps sans vie d'une victime. Il s'agit de celui d'un médecin de 45 ans porté disparu. Le corps reste encore tout de même à être identifié. La procureure de la République de Lille, Carole Etienne, a affirmé que selon l'enquête, ce psychiatre était parti de Calais pour se rendre à Reims et s'était fait prêter un appartement pour passer la nuit. La procureure a également précisé que l'enquête pour mise en danger de la vie d'autrui a été élargie au chef d'homicide involontaire. La première ministre Elisabeth Borne a rendu hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. 7 ans après, une minute de silence a été observée sur les lieux des attaques à Paris et Saint-Denis. La ministre était accompagnée pour l'occasion de la maire de Paris, Anne Hidalgo, et des représentants des associations de victimes. La Terre devrait franchir la barre des 8 milliards d'habitants ce mardi 15 novembre. C'est ce qu'estime l'ONU, qui avait publié un rapport en juillet dernier. Parmi les pays où la concentration de population devrait augmenter, l'Égypte, le Pakistan, le Nigeria, mais aussi l'Inde, qui pourrait compter 1 milliard d'habitants. La croissance de la population mondiale a augmenté d'un milliard sur les 11 dernières années.
Vidal pour le point sur l'information. Retour sur l'Ocean Viking et sur ce flux migratoire dans le sud et en mer Méditerranée. Je rappelle qu'il y avait 4 bateaux en mer Méditerranée, et que l'Italie en a accueilli 3. Le quatrième, l'Ocean Viking, ils ont dit non. Catherine Colonna, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, a accordé un entretien aux Parisiens et elle tape très fort contre l'Italie. Voilà ce qu'elle dit. C'est une très forte déception sur le fond. L'Italie ne respecte ni le droit international ni le droit de la mer. Il y aura des conséquences si l'Italie persiste dans cette attitude. De notre côté, nous avons suspendu le dispositif de relocalisation des migrants provenant de l'Italie. On parle là de 3500 migrants. Et renforcer les contrôles aux frontières franco et italiennes. Il faut rappeler Rome à son devoir d'humanité en espérant qu'elle comprenne le message. Comment vous décodez, décryptez cette déclaration de la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Geoffroy Lejeune?
C'est, comment dire, c'est bon, je suis consterné en réalité. Je suis consterné parce que, non mais pardon, chercher le mot. Déjà, c'est faux, en fait. Pour commencer, c'est faux. C'est-à-dire qu'on parle de non-respect du droit international et du droit de la mer. Si vous prenez le droit de la mer, en théorie, on doit aller dans le port le plus proche. Au début de la traversée de l'Ocean Viking, c'était la Libye ou la Tunisie, mais ce n'était pas du tout Toulon, en fait. Et donc, elle ajoute à ça le droit international parce que l'Europe nous impose que ce terme de port le plus proche soit remplacé par le terme de le port sûr le plus proche, et les ports sûrs, ils sont tous européens. C'est ça le problème en réalité. Donc déjà, je comprends le gouvernement italien de ne pas avoir envie de continuer cette mascarade. Je pense que les opinions européennes n'en ont pas envie. Je pense que les résultats électoraux, qu'il s'agisse du Brexit, de la Suède, la politique menée au Danemark, le score de Marine Le Pen au second tour de la présidentielle et les derniers résultats aux élections italiennes indiquent fortement que les Européens en ont marre. Et je pense que c'est un suicide pour Catherine Colonna d'essayer de parler comme ça aujourd'hui. Le vrai sujet qui se pose aujourd'hui à nos gouvernants, quel qu'il soit sur le continent européen, c'est comment on va gérer ce que disait Philippe tout à l'heure, c'est-à-dire les prédictions démographiques de Stephen Smith, le démographe spécialiste de l'Afrique, qui nous explique que, et d'ailleurs tout le monde le dit avec lui, il n'est pas tout seul, que dans 80 ans, il y aura 4 milliards d'habitants en Afrique. Mm-hmm. Et aujourd'hui, il y en a 1 milliard et demi, je crois. Mm-hmm. Et donc, c'est le vrai sujet. Et aujourd'hui, la jeunesse, l'Afrique est un continent assez jeune, les gens ont entre 30 et 50% par pays à vouloir changer de pays. Parfois, ils font de la migration en Afrique et très souvent, ils font de la migration en Europe. Comment on va gérer ça? On ne pourra pas le faire. Donc la question, c'est maintenant comment on tarit ce flux et comment on explique aux gens qu'il faut rester chez eux. Et là, pour le coup, on est à des années-lumière de ça. Donc on tape sur le voisin, c'est beaucoup plus facile. On s'achète des bons sentiments. On dit, ah, c'est des néo-fascistes, ils sont terrifiants. La réalité, c'est que le problème va se poser.
Comment vous... Est-ce que... C'est une menace de Catherine Colonna ?
C'est de la politique intérieure. Et je suis très surpris. Catherine Colonna est une grande diplomate.
Mais ça se voit.
Donc elle fait ça sur commande. Ouais. C'est pas elle qui improvise ce discours politique. Et je suis très étonné qu'Emmanuel Macron, parce que c'est lui qui est derrière, veuille durcir le ton. On ait des désaccords avec l'Italie, on en a avec d'autres pays, et ça arrive, et c'est la vie européenne. En revanche, de vouloir persister dans la tension avec l'Italie, alors que déjà on a d'énormes désaccords avec l'Allemagne sur d'autres questions énergétiques, militaires, qu'on veuille persister dans cette tension, ça ne me paraît pas de bonne politique. Je suis assez étonné qu'Emmanuel Macron, qui parle à longueur de discours de souveraineté européenne et d'Europe fédérale souvent, veuille persister là-dedans, parce que sur cette question, sur la question migratoire, je partage votre conclusion sur le fait comment on va faire face à cette évolution de l'Afrique. On n'y arrivera pas tout seul et qu'on aura besoin de coopération européenne. Et par ailleurs, j'ajoute, je pense que l'Italie, vous l'avez très bien rappelé, a accueilli certains bateaux, ne veut pas d'eau, donc il faut discuter avec les Italiens. Et je ne vois pas à quoi ça sert de les... j'allais dire les insulter, le terme est trop fort, mais en tout cas,
les mettre... Quand on vous dit qu'il faut rappeler à Rome son devoir d'humanité, effectivement, ça peut être considéré comme une
insulte. C'est de la politique intérieure.
Et surtout, c'est toujours intéressant.
C'est de la posture de politique
intérieure. Mais de faire des leçons d'humanité quand on n'est pas capable de gérer 400 migrants sans papier afghans qui sont boulevard de la Chapelle avec le reportage qu'on a fait.
Ouais,
c'est pas facile, mais j'ai pas l'impression que Giorgia Meloni fasse des leçons de morale à Catherine Colonna.
La réalité, quand même, qu'il faut dire
sur les situations des migrants en France.
Juste un mot. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de migrants qui arrivent en Italie et par la Sicile.
Et ensuite,
ils partent, ils ne restent pas en Italie.
Oui, ils viennent en France.
Et donc, les problèmes d'accueil migratoire, d'intégration, d'assimilation, sont beaucoup plus forts en France qu'en Italie.
Immigration toujours au cœur de l'actualité, je le disais ce week-end, il y a bien sûr l'Ocean Viking, mais ça se passe également dans le nord de la France et la traversée de la Manche. La situation est extrêmement tendue près de Dunkerque. Les forces de l'ordre ont été prises à partie par une centaine de migrants qui tentaient de rejoindre clandestinement le Royaume-Uni. Voyez ce sujet de Mathieu Rio et on en parle juste après.
J'ai deux pierres et deux branches d'arbres. Une centaine de migrants munis de gilets de sauvetage orange tentent de repousser les policiers sur la plage en leur lançant des projectiles. Les forces de l'ordre voulaient empêcher deux embarcations de fortune de prendre la mer pour la Grande-Bretagne. C'est ce qu'explique Philippe Dupré, délégué SGP Police à Dunkerque.
Donc c'est quand même un groupe très conséquent puisqu'il s'agit de plus de 100 migrants qui s'apprêtent à prendre la mer. Et très clairement, ils utilisent des pierres, tous les projectiles qu'ils peuvent trouver à proximité.
Les policiers finissent par avancer vers eux et font usage de gaz lacrymogène. Aucun agent n'est blessé. L'opération est réussie, mais ces violences sont de plus en plus récurrentes selon le syndicaliste.
Depuis le mois d'août, on assiste vraiment à une explosion de la violence des migrants qui sont prêts à tout pour pouvoir partir. On craint réellement qu'un jour, on ait des blessés parmi les forces de l'ordre.
Après plusieurs jours d'intempéries, les autorités françaises avaient anticipé cette tentative massive de traversée de la Manche. Dans un communiqué, la préfecture a annoncé le sauvetage de 142 migrants en pleine mer samedi. Elle rappelle que la traversée de la Manche est très dangereuse, surtout en cette période de l'année.
40 000 migrants ont tenté de traverser la Manche cette année, des clandestins décomplexés, même en situation irrégulière, qui vont s'en prendre aux forces de l'ordre. C'est la faillite de l'État, Geoffroy Lejeune, ces images qu'on a pu voir dans le Nord.
Faillite de l'État, faillite de nos accords, en fait, ce qu'on a trouvé, les accords du Touquet, etc., qu'on pensait avoir chaque fois réglé le problème et qu'en fait, on réalise qu'on n'a strictement aucune prise sur les choses. Et l'Italie, ça va être la même chose, hein, ce qui est en train de se passer en ce moment. Moi, surtout, ce que m'inspirent ces images, parce qu'il faut quand même les décoder rapidement, on a donc plusieurs dizaines de gens qui ont entre 20, 30, 40 ans, qui sont extrêmement vindicatifs, extrêmement véhéments et qui n'ont pas peur de rentrer, d'aller au carton avec les forces de l'ordre qui sont là pour faire respecter notre droit. Moi, ça m'inspire juste une chose, c'est que habituellement, quand vous parlez d'immigration sur un plateau de télévision en France ou même avec des beaux esprits, on vous répond dans le cas de l'Ocean Viking, regardez
234 femmes et enfants qui allaient mourir de faim et de soif à bord d'un bateau. Et ou alors on vous dit comment pouvez-vous
très bonne santé. Quand même.
Non mais j'ai pas dit l'inverse, mais on vous a expliqué. C'est des enfants qui sont en train de crever de faim. Pardon. C'est moi j'ai vu des migrants de l'Ocean Viking débarquer. J'ai vu peu d'enfants. J'ai vu beaucoup d'hommes qui ressemblaient à cela. Et on vous explique aussi comment pouvez-vous être fermé à ce point-là à l'immigration. C'est peut-être Victor Hugo, Marie Curie, c'est formidable.
Là ils veulent pas rester en France. Ils veulent aller en Grande-Bretagne.
J'ai pas dit l'inverse, mais moi ce que j'ai envie de répondre à ces gens, c'est que l'immigration, ça n'est pas que Marie Curie, en fait. Ça n'est pas que Zidane, ça n'est pas que Platini. C'est aussi ça, et en fait, c'est surtout ça, et c'est souvent ça.
Non, Philippe Guibert, sur ces images.
Ce n'est pas que Marie Curie et Zinedine Zidane. Là, en l'occurrence, ils veulent quitter la France. C'est ça un peu le paradoxe. On vient de parler de migrants qui veulent venir en Europe, et en particulier en France. Et là, ils veulent quitter la France pour
aller en Grande-Bretagne. Et avant de quitter la France, ils veulent s'en prendre aux policiers. C'est surtout ça.
Mais on gère c'est la mauvaise gestion des accords du Touquet.
D'accord.
C'est un échec. Sur ce point, on est d'accord. Les accords du Touquet font que on gère, nous, Français, et l'État français, l'accueil des migrants qui veulent arriver en Grande-Bretagne. De ce point de vue-là, excusez-moi, ça se passe pas bien. Ça fait des années que le problème est pendant. Ces dernières années, les relations avec la Grande-Bretagne n'ont peut-être pas permis de bien renégocier ces accords du Touquet, parce que je pense que la charge est trop lourde pour le pays et qu'il faudrait redéfinir le partage des tâches entre la Grande-Bretagne et la France. Le contexte post-Brexit n'a pas permis une discussion sereine sur ce sujet, mais c'est une conséquence. D'accord. Des accords du Touquet.
D'ailleurs, les Anglais ont le droit, Elliot, de pas avoir envie qu'ils débarquent chez eux. Et en fait, il y a un problème global.
Ouais, le problème, c'est que c'est nous qui gérons.
On parle de répartition de la misère. Je suis désolé. Si à un moment donné,
ces
gens-là n'étaient pas entrés parce que personne ne leur a demandé de venir, ça irait peut-être.
D'accord. Mieux. Mais
et là, ça pose la question des frontières extérieures de l'Union européenne. Oui. Mm-hmm. Et là, pour le coup, le Frontex est un enfumage énorme. Le patron de Frontex, qui était un Français, a démissionné il y a quelques mois parce qu'il a demandé à la Commission de se positionner sur ses vraies missions. Est-ce que c'était de faire du pushback, c'est-à-dire d'empêcher les gens de venir, ou alors de l'accueil des migrants? On lui a répondu non, faites de l'accueil.
J'ai le souvenir d'avoir un ministre de l'Intérieur qui disait il y a quelques jours tout étranger délinquant sur notre territoire, c'est dehors. Je ne suis pas fou, je ne suis pas sourd non plus. Ah, ouais. Donc j'espère que ces 100 personnes qui ont attaqué les forces de l'ordre, on va suivre le dossier et savoir si elles vont être expulsées.
Pas leur origine et quels
les hôpitaux pays ils sont. Bien sûr, mais avançons. Les hôpitaux français en état d'urgence absolue, là aussi c'est très intéressant et alarmant. En cause, un record d'hospitalisation depuis 10 ans. Et en ce moment, vous avez plusieurs crises qui se conjuguent, dont la crise en pédiatrie et l'épidémie de bronchiolite. Le plan blanc a été déclenché sur l'ensemble du territoire, mais faute de bras, faute de moyens, dans certains hôpitaux, et notamment à Laval, vous ne pouvez même pas le rendre efficace. La question désormais, c'est de savoir s'il y a un tri des patients qui est effectué. Réponse du porte-parole, c'était ce matin chez nos confrères de BFM.
C'est le médecin hospitalier qui vous le dit, en matière sanitaire, qu'il s'agisse de nourrissons, d'enfants, d'adultes ou de vieillards, le tri n'existe pas. C'est une notion que je ne connais pas.
D'accord.
Il y a une organisation des soins qui est graduée et différenciée en fonction de la charge sanitaire dans un endroit. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si un hôpital ne peut plus faire face à l'afflux de patients, eh bien il s'appuie sur d'autres hôpitaux au sein de la région, voire entre régions, ce que nous avons bien connu pendant le Covid.
Olivier Véran, ancien ministre de la Santé, qui dit « le tri, je ne connais pas ». On est bien d'accord ?
Oui.
Écoutez Julie Stark, on découvrait ce qu'elle a dit plus tôt chez nos confrères d'RTL. Elle est pédiatre réanimatrice à l'hôpital Trousseau à Paris. Actuellement, on soigne mal nos enfants. On ne peut pas tous les hospitaliser. On est obligé de trier nos enfants. On est obligé de trier nos enfants. On est contraint de prendre un surnombre dans les couloirs. On fait des soins dégradés. On les met en danger clairement. Donc comment on peut avoir le discours politique et la relation sur le terrain, ce qui se passe sur le terrain et ce décalage-là?
On a des urgences pédiatriques qui sont dans l'état, aussitôt qu'il y a une bosse, qu'il y a un pic d'épidémie, en l'occurrence de bronchiolite, on a des urgences pédiatriques qui sont dans le même état que nos urgences tout court. Mmh. Et dans les urgences, arrêtons l'hypocrisie, avant la pandémie, il y avait des formes de tri, parce que les urgences sont encombrées, je l'ai vécu personnellement, il y a des formes de tri depuis longtemps, parce que nos urgences sont débordées. Alors, je ne connais pas ce qui se passe, parce que la notion de tri concerne des personnes très âgées dans des cas désespérés, pour dire les choses violemment et brutalement, mais c'est violent et brutal quand on le vit. Je pense que ce n'est pas le même cas de figure, évidemment, pour des enfants. Mais je pense qu'il y a une hiérarchie des soins.
Malheureusement, c'est une pédiatre qui en parle.
S'il y a des hiérarchies des soins qui se mettent en place, où les urgentistes vont aux plus urgents.
Geoffroy Lejeune.
Comment interpréter la différence de discours entre le porte-parole du gouvernement et quelqu'un qui, sur le terrain, dit très exactement l'inverse ? à part en disant que il y a une facilité pour le disons la dissimulation de la vérité globalement dans ce gouvernement et pour le mensonge en particulier dans le cas d'Olivier Véran qui quand même et aujourd'hui c'est vraiment devenu son métier d'expliquer
l'autre fonction publique qui
on
fait
a
ça.
Ah mais c'est terrifiant, enfin lui à la base il est médecin hein. C'est pas ça, il a pas été formé, c'est-à-dire qu'il l'a inventé, il s'est formé sur le tas, c'est terrifiant, mais systématiquement il est chargé de nous expliquer qu'on ne voit pas ce qu'on a vu en fait. Donc sur la question de l'hôpital en particulier, moi je suis d'accord avec Philippe, en fait on connaît tous une situation où il y a eu une forme de tri, et moi à chaque fois que je parle à des gens, c'est plus fréquent depuis le Covid, qui travaillent dans le milieu hospitalier, j'entends exactement le même discours que celui qu'on a entendu. Donc en fait, je me suis interrogé sur cette question parce que j'entends souvent parler de manque de moyens et de manque de bras, etc. Je pense que c'est vrai, enfin je veux dire, je pense que c'est ressenti de recrutement tout le monde, tous les gens qui travaillent dedans. Et en même temps, quand vous voyez ce qu'on dépense dans la santé et dans l'hôpital, vous vous dites c'est bizarre, on dépense énormément. Et donc j'ai essayé de comprendre, et celui qui m'a éclairé là-dessus, c'est un professeur qui s'appelle le professeur Perromore, qui d'ailleurs vient parfois sur CNews, qui lui en fait explique que l'hôpital s'est mal réformé, en tout cas a mal évolué, et notamment c'est embarqué dans une forme de suradministration au détriment du soin en réalité. Et quand vous regardez ce qu'il dit, c'est très éloquent parce qu'en réalité, vous avez, c'est un peu comme dans la police d'ailleurs, des procédures qui se sont accumulées, vous avez un besoin administratif qui s'est étoffé, donc des postes qui sont consacrés.
Qui fait qu'on a un personnel administratif de 20% des effectifs.
Et vous avez des agents qui n'ont jamais mis un pied dans un bloc opératoire, qui n'ont jamais vu un patient et qui vont donner des leçons, en tous les cas donner des directives à M. Perromore par exemple, en disant tu vas opérer de temps à temps, il va falloir faire des coupes budgétaires. Ça rend fou les chirurgiens, bien évidemment. Dernier thème. Adrien Quatennens, retour à la politique, il devrait bientôt faire son retour à l'Assemblée nationale. Quasiment deux mois qu'Adrien Quatennens s'est mis en retrait de la vie politique. Alors officiellement, il est en arrêt maladie. Je rappelle que mi-septembre, le député LFI a avoué avoir giflé sa femme, Sandrine Rousseau. Lui dit, si tu reviens, il va falloir que tu convainques les femmes, et notamment les femmes battues, qu'il y a un intérêt politique à ce que tu reviennes. Écoutez.
Nous sommes dans une révolution. Eh bien, dans une révolution douce, dans une révolution non violente, dans une révolution de quelque chose où on invite tout le monde à se mettre autour de la table. Et c'est pour cela que je dis que Adrien Quatennens a quelque chose à jouer aussi dans ce débat-là, de dire, si tu reviens en politique, alors reviens en convainquant les femmes, y compris les femmes battues, que ta présence est utile. Je lui dis juste, là, il y a plein de femmes battues, il y a 200 000 femmes battues, qu'es-tu capable de faire pour elles ?
Adrien Quatennens, est-ce qu'il doit revenir à l'Assemblée nationale ?
C'est exceptionnel cet extrait, c'est extraordinaire. C'est, en fait, Sandrine Rousseau, déjà, c'est elle qui dit le bien, le beau, le vrai, la vérité. Enfin, je veux dire, c'est
absolument.
Elle qui décide. Si elle est d'accord, ça va bien se passer pour lui. Si par contre elle n'est pas d'accord, comme dans le cas de Julien Bayou, là par contre c'est la fin du monde. Mmh. C'est extraordinaire. Vraiment, cette femme elle est vraiment terrifiante. Pour commencer. Et ensuite, deuxièmement, je les trouve magnifiques tous, en fait, dans cette partie-là de l'échiquier politique, de capacité de contorsionnisme en réalité, en fonction de s'ils parlent d'un de leurs amis ou pas, de voir comment ils s'arrangent avec la vérité, comment ils tordent le problème. Il a quand même giflé sa femme. Normalement, s'ils étaient cohérents avec ce qu'ils pensent, ce serait bannissement ad vitam aeternam. Mais d'ailleurs, ça aurait été.
Je partage pas ce point de vue.
Alors, je vais vous dire, si le député de Fournas, au lieu de dire qu'il retourne en Afrique en parlant d'un bateau, avait giflé sa femme, vous inquiétez pas, ils n'auraient pas trouvé de circonstances atténuantes et ils lui auraient pas demandé de s'engager pour la cause des femmes. Ils lui auraient juste demandé de quitter.
Déclaration politique et un comportement privé n'est pas de même nature.
S'il avait frappé sa femme, si ça avait été un mec du RN qui avait frappé sa femme, ils auraient trouvé aucune circonstance atténuante.
Non, mais c'est pas. On n'a pas le temps d'écouter Yael Braun-Pivet, qui est la présidente de l'Assemblée nationale, mais elle a réagi également en disant il n'a pas encore été condamné. Bien sûr, il doit revenir, en tous les cas, il peut revenir à l'Assemblée nationale.
Non, mais il est
privé, c'est quand même celle qui avait demandé l'exclusion temporaire de M. de Fournas.
Alors, je trouve que les deux simulations, on est sur.
Mais je parle de la position de Yael Braun-Pivet. Mais revenons sur Adrien Quatennens. Est-ce qu'il doit faire son comeback ?
Non, moi je pense qu'il doit s'expliquer, évidemment. Il ne doit pas prouver son utilité. Enfin, c'est hallucinant cette demande de Sandrine Rousseau. mais en revanche, il doit s'expliquer. Une gifle, c'est extrêmement répréhensible. Mais si c'est à un moment dans une séparation, vous demandez à tous les avocats qui sont chargés de divorce, ce sont des choses qui, hélas, on peut le regretter, mais qui, hélas, arrivent dans des séparations. Si ça a été une fois, il faut qu'il s'explique, qu'il donne sa version.
Même une fois. C'est ce qu'on dit toujours. La première baffe, c'est faut partir, faut signaler, faut condamner tout de suite. C'était la ligne d'ailleurs de
l'expérience des avocats de divorce et puis l'expérience de la vie.
Avocats de divorce
montre qu'une personne peut perdre la maîtrise de lui-même.
Oui.
À l'occasion d'une dispute, ça arrive, hélas.
Donc vous êtes pour son retour.
Je suis pour qu'il s'explique. avant de revenir. Parce qu'il ne peut pas revenir comme ça en disant bah, « bah, voilà, j'ai purgé mon mois et demi ou mes deux mois de suspension et puis je reviens tranquillement sans rien dire ». Il faut qu'il s'explique. Pas de, à mon avis, je ne conseille pas devant Sandrine Rousseau.
Dernière image. On est à J-7 et on va parler de toute autre chose. J-7 du Mondial, Coupe du Monde de football au Qatar. Une Coupe du Monde historique avec un florilège de polémiques. Et j'imagine que ce mois va être assez tendu. Mais ces dernières heures, ce sont des images, je ne sais pas si vous les avez vues sur les réseaux sociaux, des premiers supporters qui sont arrivés. C'est formidable, les premiers supporters. Je pense qu'on va les découvrir. Alors, il y a des supporters brésiliens, des supporters français, anglais, des cortèges de fans, mais quand on creuse un tout petit peu, on voit que ce cortège de fans, il n'est pas forcément argentin. Ce sont en fait, selon les médias britanniques, des Indiens qui ont été payés. Alors, on n'a pas encore la confirmation qu'ils ont été payés ou non, mais c'est vraiment des cortèges avec des Indiens qui sont fans de l'Argentine, du Brésil, etc. Et la presse britannique, je le répète, affirme que ces derniers ont été payés.
Le Qatar a une grande tradition de...
Alors là, vous avez... Là, c'est l'Angleterre, les supporters anglais.
C'est une grande tradition d'utiliser des Pakistanais et des Indiens pour...
Je crois qu'on a peut-être la photo du cortège français. Ah, on l'a pas. On la présentera sur Soir Info Weekend. Peut-être un dernier mot.
Cette Coupe du Monde est géniale parce que tous les ingrédients sont réunis pour que ce soit la première Coupe du Monde sans le peuple, en fait, en réalité. Mais c'est vrai qu'on voit. C'est pas un pays de football. Alors, même s'ils investissent dans le football, c'est pas un pays de football. C'est un petit pays, donc il n'y a pas beaucoup de supporters.
Absolument.
Le moment de l'année est très mal choisi pour les gens qui ne peuvent pas prendre un mois de vacances pour partir faire la fête. Et la pinte de bière coûte 18 euros, je crois. Donc pour toutes ces raisons-là.
Avec modération. Surtout avec modération. Allez, il est 19h50 dans un instant, c'est face à Rioufol, Yvan Rioufol avec Olivier de Carenfleck. Et nous, on se retrouve à 22h pour Soir Info Week-end, à 22h pendant une demi-heure. Nous serons avec Bernard-Henri Lévy. On va évidemment revenir sur la reconquête de Kherson par l'armée ukrainienne. C'était un plaisir de vous avoir tous les deux.
C'est un plaisir aussi, on souhaite bon établissement.
Et bien sûr, on salue Julien Drey, qu'on embrasse très fort et chaleureusement.